Lizzie présente Les énigmes de l'histoire de France. Sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Lu par Jean-Yves Berthelot. Chapitre 1. Alésia. Une défaite improbable. Par Jean-Louis Bruneau. Alésia. La mémoire du lieu cultive le paradoxe. Plus de 20 siècles nous séparent de l'événement qu'elle retient. Pourtant, l'épisode historique n'a rien de glorieux. Il marque une défaite cuisante, puis la fin d'une civilisation. Alésia devrait en être honteusement oubliée. Mais l'attachement que les Français lui témoignent est si fort que, depuis la Renaissance, nombre de localités s'en réclament les descendantes. La raison tient à la bataille elle-même, qui demeure une énigme. Comment les Gaulois, à la tête de l'armée la plus considérable jamais réunie jusqu'alors sur le sol de France, plus de 300 000 hommes, ont-ils pu céder devant les 60 000 légionnaires de César? Mais au fond, ce mystère n'est-il pas celui plus large de cette guerre des Gaules dont César voulut qu'Alésia marquât la fin? La guerre des Gaules, histoire ou fiction? Pour répondre à ces questions, il faut reprendre l'histoire à son début, celle de la conquête romaine. Nous disposons de l'ouvrage « La guerre des Gaules », dans lequel César narre son aventure en Gaule pendant 7 années. Témoignage irremplaçable sur les événements de la fin de l'indépendance gauloise, il est aussi, pour le malheur de l'historien, quasi unique. Et ce récit circonstancié des principaux faits guerriers, et particulièrement du siège d'Alésia, n'est pas neutre. Il est celui du vainqueur. De surcroît, l'auteur est un écrivain de grand talent, capable, sans mentir vraiment, de tordre les faits pour les ajuster à sa vision de la Gaule, des Gaulois et de sa conquête. Or, César, proconsul, administrateur temporaire d'une province romaine après la sortie de sa charge de consul en 59, avait en venant en Gaule des intentions calculées. Il lui fallait faire une guerre facile à gagner et à même de conforter son ascension politique par la renommée acquise et la richesse confisquée à l'ennemi. Composé des rapports annuels qu'il faisait parvenir au Sénat romain pour justifier les subsides qu'il en recevait pour faire la guerre, l'ouvrage, immédiatement publié par morceaux, s'est avéré un formidable moyen de propagande. Il lui a valu les plus grands honneurs que la République romaine ait accordés à un général romain. Sans être pure fiction, César était accompagné en Gaule d'hommes politiques romains, autant d'observateurs vigilants de son action. La guerre des Gaules ne peut pour autant être considérée comme un véritable manuel d'histoire. Il faut, à sa lecture, ne jamais se départir d'un esprit critique et souvent lire entre les lignes. Son titre, tout d'abord, pose problème. Il affirme que la conquête de la Gaule fut avant tout affaire militaire. C'est une fausse évidence. La Gaule de la fin de l'indépendance. Il en est une autre qu'il faut combattre. Celle qui fait des Gaulois des barbares vivant dans la périphérie et l'ombre du monde gréco-romain. Ils jouissaient, au contraire, d'une authentique civilisation que révèlent leurs inventions technologiques, leurs formes d'art originales, leurs pensées religieuses à nul autre pareille et leurs institutions politiques. Mais surtout, ils étaient beaucoup moins éloignés des Romains que César veut bien le dire. Depuis plus d'un siècle, tous les peuples du sud et du centre de la Gaule pratiquaient activement le commerce avec Rome. Des centaines de milliers d'amphores de vin et d'huile y parvenaient depuis l'Étrurie et le Latium. Les Gaulois les payaient avec des minerais, des produits agricoles, des esclaves, mais aussi des outils et des véhicules desquels ils étaient devenus maîtres dans la fabrication. Les Romains en ont souvent conservé les noms gaulois. Lacedum, char à deux roues. Le carpentum, voiture bâchée. Le carrousse, voiture à quatre roues. Parmi une douzaine de types de véhicules. Mais aussi ceux des vêtements, le sagoum, le koukoulous, la caracalla, le birous, tous des types de manteaux. Ce ne sont là que quelques exemples des produits gaulois adoptés par les Romains. Il faut leur ajouter le tonneau, le savon, la cotte de maille, la tactique de la tortue, bouclier formant une carapace au-dessus d'un groupe de guerriers, etc. La Gaule n'était pas une nation. Ces différents peuples, César en cite une soixantaine, gardaient une forme d'autonomie. Ils constituaient ce que César appelle des cités, entités politiques, administratives et territoriales, correspondant à un ou deux de nos actuels départements. Néanmoins, ces peuples, depuis des siècles, se regroupaient en confédérations. Celtes, entre Seine et Garonne, Belges, entre Seine et Rhin, Aquitains, au sud de la Garonne. Les trois ensembles avaient aussi conscience d'appartenir à un même pays et depuis longtemps s'étaient dotés de quelques institutions communes. La plus remarquable est celle que César appelle le Conseil de toute la Gaule. Toutes les cités y déléguaient des représentants qui se réunissaient au moins une fois chaque année et désignaient parmi eux un peuple patron, disposant, le temps de son mandat, d'une autorité morale et d'un pouvoir d'arbitrage. Il pouvait, dans quelques cas, décider la constitution d'une armée confédérale. L'autre institution est plus célèbre. Il s'agit d'une cour de justice, animée par les druides, et dont la compétence s'étendait non seulement à tous les Gaulois, mais aussi aux cités. Elle tenait ses assises une fois par an au centre de la Gaule, chez les Carnutes de la Beauce. Là devait se trouver aussi un lieu de culte commun à tous les peuples. Les enseignes militaires de toutes les cités y étaient déposées et réunies. La Gaule était donc avant tout un espace politique et religieux. Sa conception avait été l'œuvre des druides répartis dans tout le pays. Les premiers avaient pris l'habitude de se réunir pour discuter de leur doctrine et s'étaient placés sous l'autorité d'un chef incontesté. Leur mode de réunion et de désignation d'un chef de file ont été les modèles des institutions politiques gauloises. Leurs pratiques de la justice, de la religion et de l'éducation furent les ferments de ce fonctionnement commun à tous les peuples au cours des trois derniers siècles de l'indépendance gauloise. Éduin, Sécane et Germain. Le commerce de grande envergure avec Rome ne fut pas sans conséquence sur les fragiles équilibres entre les peuples. Quelques-uns se sont considérablement enrichis, provoquant la convoitise des autres. Ce fut le cas des Éduins, habitant le Morvan actuel. Probablement alliés à Rome depuis la Seconde Guerre punique, ils en avaient reçu le titre officiel de « frères consanguins des Romains ». C'est par leur territoire que transitaient les produits romains destinés à tout l'est de la Gaule. La Saône, qu'empruntaient les bateaux, devint un objet de litige incessant entre eux et leurs voisins orientaux, les Sécanes de Franche-Comté. Ils se disputaient la propriété du fleuve et la perception des taxes sur les marchandises et les profits tirés du transport par eau et sur les berges. Au cours des années 70 avant Jésus-Christ, le conflit entre les deux cités s'exacerba, prenant souvent une tournure guerrière. Les Éduins sortaient régulièrement victorieux des affrontements. En désespoir de cause, les Sécanes se résolurent à recruter des mercenaires chez les Germains, peuple habitant la rive droite du Rhin. Ces hommes, encore partiellement nomades, étaient de redoutables guerriers. Leur irruption dans le conflit en changea la face. Ils repoussèrent les Éduins.